Nous allons pouvoir passer donc à la quatrième communication de la matinée qui est faite par le docteur Frédéric Esbert, qui est psychiatre à Lyon. Et la présentation va s'intituler « Comment penser la transformation des secteurs de psychiatrie dans une logique de prévention et d'intervention précoce ?» Merci.
Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à l'ADESME de me permettre de faire cette présentation. Merci particulièrement à Pascal Mariotti. La présentation que je vais faire là sera assez en continuité avec celle de Vincent Laprévotte avant la pause, puisqu'on va aborder cette question sous l'angle des psychoses. Alors peut-être un petit peu différemment, puisque on va peut-être un peu plus parler des états psychotiques avérés, des premiers épisodes de psychose. Donc voilà un petit peu le plan de la présentation. Je rappellerai un certain nombre de choses qui ont déjà été dites, peut-être un petit peu différemment. L'idée, ce sera d'essayer de proposer une réflexion autour de défis qui sont liés à la sectorisation psychiatrique et à sa transformation, sa modernisation, pour y introduire la question de l'intervention précoce et de l'intervention pour les premiers épisodes de psychose. Alors je vais passer assez rapidement sur quelques éléments historiques, mais je pense que c'est intéressant de voir un petit peu comment les choses se sont constituées. Hein, on l'a évoqué tout à l'heure, les premiers modèles d'intervention précoce dans le monde étaient d'abord initialement structurés, pas tellement sur les ultra-hauts risques, comme on l'a pu voir dans la présentation précédente, mais parce que c'est une problématique qui s'est révélée un peu au fur et à mesure, mais plus sur essayer de comprendre les enjeux de la schizophrénie. Alors initialement dans une question de recherche, comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à la phase initiale des schizophrénies, parce que le plus souvent les chercheurs étaient amenés à voir des patients qui avaient des longues années d'évolution de maladie et aussi des traitements, et donc c'était un petit peu difficile de savoir ce qui s'y passait. Donc finalement, l'idée de certains groupes de chercheurs a été de recruter des patients dits drogue naïve, qui n'avaient pas eu de traitement, finalement pour des raisons de recherche. Ce qui a permis de mettre à jour un besoin qui est finalement le besoin de patients qui ont un profil différent, qui ont un effet des traitements qui va être différent, moins bien toléré, des enjeux sociologiques différents. Avec la constitution d'une première unité en 1984 à Melbourne pour ces premiers épisodes, et puis un réseau qui s'est diffusé à l'ensemble de l'Australie sous l'impulsion de Patrick McGorry, et puis ensuite qui s'est diffusé un petit peu plus mondialement avec des répétitions, on va dire, de séjours postdoctoraux, de rencontres individuelles, mais qui petit à petit se sont fédérées jusqu'à une diffusion mondiale, une diffusion qui a été permise notamment par la constitution d'une société qui était l'International Early Psychosis Association, a commencé même un peu plus tôt en 1996, et puis qui petit à petit, dont le nombre de membres n'a cessé de croître, et qui petit à petit a évolué d'abord sur, c'était la question de la prise en charge des premiers épisodes de psychose, et puis qui a évolué en amont sur la prise en charge des patients à risque, un peu plus en amont, un peu plus comme ce qui a été évoqué par les présentations précédentes. Voilà, ça a donné lieu à de nombreuses collaborations. Donc, ça a été rappelé aussi. Initialement, la France a été beaucoup en dehors de ces réseaux. Et sur ces questions d'intervention précoce, un peu plus récemment, un rapport, là aussi, on en revient à la London School of Economics, a été fait en 2014. Alors, je pense aussi que la situation a bien évolué depuis. Mais en tout cas, voilà, enfin, étaient affichés en vert les pays qui avaient un financement dit mainstream, où finalement c'était inscrit dans des logiques politiques de santé publique. En jaune, ben, des financements peut-être un peu plus disséminés, une organisation un peu moins structurée, mais quand même structurée, et en rouge, peu ou pas de dispositif. Il y a vraiment quelque chose ces toutes dernières années qui est en train de bouger considérablement autour de cette question. Alors, un point qui est intéressant, hein, on citait l'Angleterre. L'Angleterre a commencé aussi à partir de rencontres en Australie, de personnes qui sont revenues, qui ont commencé à mettre en place des dispositifs à Birmingham, puis avec des dispositifs pionniers ensuite dans le sud de Londres. Mais rapidement, sous l'impulsion à la fois des acteurs de la question et puis des usagers, notamment il y avait un père d'usagers qui était David Shears, dont la fille souffrait de schizophrénie, qui a beaucoup œuvré pour la diffusion de l'intervention précoce et son inscription dans un programme beaucoup plus général de santé publique. Donc voilà, aujourd'hui, voilà où en est l'Angleterre, 150 services d'intervention précoce avec beaucoup de différentes facettes de cette intervention, que ce soit au niveau médical, social, réhabilitation. Alors en France, voilà, on a un système qui est très intéressant car il offre un réseau de proximité. Il a été basé finalement beaucoup là-dessus, sur cette question de la proximité territoriale, avec différents dispositifs qui se déclinent pour un territoire. Mais c'est un système qui a été pensé en amont de ce mouvement et finalement qui intègre pas ou on va dire assez difficilement les lignes de soins spécialisées et puis des lignes qui, petit à petit, ne doivent pas nécessairement être des lignes de recours. Aujourd'hui, ça devrait être accessible à tous, des lignes notamment de réhabilitation. Alors, je citais la loi HPST, j'avais l'idée que cette loi HPST pouvait peut-être aider à passer outre cette logique, mais voilà, enfin, il semble que les choses n'aient pas encore considérablement évolué. Alors, voilà. Enfin, maintenant, se pose un peu la question de moderniser cette offre de soins, de peut-être un peu mieux l'adapter aux besoins de santé publique. Et puis, bah, je voulais présenter une démarche qui est un peu une démarche, voilà, qu'on a présentée dans la logique stratégique de l'établissement. Enfin, c'est des échanges qu'on a eu beaucoup au Vinatier, qui pourraient être porteurs de la réforme de services dans notre hôpital, qui est la démarche d'intervention mapping, qui a été publiée par Bartholomew, et qui permet finalement de partir du problème pour ensuite définir les services et puis voilà, enfin, jusqu'à l'évaluation. Alors c'est une logique qui va en plusieurs étapes. La première étape, c'est de définir quelle est la logique du problème en termes de santé publique. Quels en sont les enjeux? Alors, si on prend la métropole de Lyon, ben, les enjeux, c'est, voilà, on est une métropole d'à peu près quasiment 1 400 000 habitants. Beaucoup sont des jeunes, à peu près 320 000 jeunes. Si on applique les statistiques en termes de premiers épisodes de psychose, on peut imaginer qu'on soit autour de 275 nouveaux cas par an sur la tranche des 16-30 ans. Avec beaucoup de ces personnes qui sont en formation, en milieu étudiant, et une autre grosse partie qui est plutôt dans une situation de recherche d'emploi. Donc on a les aspects sociologiques du problème. Sur la partie, finalement, histoire naturelle du trouble qu'on veut étudier, hein, il y a un aspect, on va dire, temporel. On l'a vu tout à l'heure, on sait qu'au plus on attend dans l'histoire naturelle des troubles psychotiques, au plus le pronostic sera sévère. Donc il y a une logique temporelle, il faut aller vite. Et puis une autre logique qui est de mécanismes multiples. On n'est pas sur une pathologie avec un seul mécanisme, on en a plusieurs, il faut agir sur tous ces mécanismes. Et ça nécessite des interventions de plusieurs acteurs, de formations différentes. Donc, la logique du problème, une fois qu'on a défini cette logique du problème, comment constituer les cibles d'intervention, modéliser les objectifs précisément. Alors, il y a deux objectifs qui sont tout à fait bien choisis, c'est réduire la durée psychose non traitée, d'une part, et d'autre part, permettre l'accès à des soins coordonnés, dans les différentes dimensions. J'ai extrait ça des recommandations anglaises du NICE. Donc avec, voilà, que ce soit du social, promotion de l'emploi, à l'optimisation pharmacologique, l'inclusion des aidants. Voilà. Comment permettre l'accès à tous ces aspects-là avec des modèles qui sont maintenant aujourd'hui largement diffusés de case management qui, on sait, facilite cette démarche. Donc voilà, on a les cibles. Ensuite, comment on fait ? Enfin, finalement, quelles composantes on va articuler ? Là aussi, il faut s'inspirer des données evidence-based, et ces questions ont été largement débattues au niveau international. Quelles doivent être les composantes d'intervention ? Ça a fait l'objet de consensus d'experts, de très nombreuses recommandations sur la question de la durée de psychose non traitée, hein, les questions de l'éducation de la population, de déploiement de stratégies d'outreach, c'est-à-dire aller vers les usagers pour les ramener aux soins, sur les soins coordonnés, c'est faire des soins évalués avec des objectifs clairs, précis, déployer des techniques de réhabilitation. Enfin voilà, il y a toute une série d'objectifs qui sont clairement définis dans des consensus d'experts et des données et des recueils de données evidence-based. Bon, donc une fois qu'on a dit ça, vient quelque chose d'un petit peu plus compliqué. C'est maintenant comment on fait et comment on va mettre ça en place, surtout dans un système de santé où il y a un existant qui, aujourd'hui, enfin, sur un premier épisode de psychose avéré, voilà, enfin, on n'est pas sur la question de l'amont, ces patients vont être pris en charge dans nos secteurs. Donc aujourd'hui, si on suit cette logique, comment on s'adapte à ça? Sachant qu'on a l'existant, des cibles complexes et de très nombreuses composantes. Alors voilà, il y a aussi des méthodologies de travail qui ont été proposées. Là ici, un consensus récent d'experts du Commonwealth sur cette question des patients complexes et des patients qui ont des besoins complexes et multidéterminés, qui souvent finalement doivent s'inscrire dans un existant de soins. Il y a toute une série de propositions qui ont été faites, et parmi elles, j'en trouvais particulièrement intéressante, c'est engager les cliniciens dans le changement et dans la formation, puis dans le leadership du projet, former les acteurs de terrain, engager les usagers dans la conception, et puis un point très important qu'on fait malheureusement trop peu, c'est tirer parti des expériences réussies. Alors comment décliner cette logique, comment la permettre? Alors voilà, enfin, une idée qu'on avait sur notre établissement, c'est sous forme d'un centre de compétences qui débuterait finalement sous forme d'un groupe de travail qui petit à petit se constituerait en centre de compétences. Alors il s'agit d'engager les différents acteurs du dispositif pour donner un avis, pour se positionner sur les différents aspects de la réforme, en prenant du côté notamment, enfin, des acteurs de la recherche, des acteurs de l'enseignement, des initiatives qui ont pu avoir lieu dans d'autres régions au niveau international, en consultant les usagers sur la définition de priorités et petit à petit en transférant les connaissances vers les acteurs de terrain, et voilà, enfin, petit à petit engager les acteurs dans le changement de paradigme et l'implémentation de nouveaux dispositifs. Alors, à prendre parti des expériences réussies, je pense que c'est vraiment extrêmement intéressant parce que, bon, parfois, ce qui nous est souvent reproché, c'est de dire oui, mais c'est des modèles, c'est voilà, strictement anglo-saxon, c'est pas notre réalité. Bon, ces services, ils ont été diffusés dans de très nombreux pays du monde. Les réalités sociologiques des pays ne sont pas les mêmes. C'est pas, et puis un pays anglo-saxon n'est pas l'autre pays anglo-saxon. Il y a des tas de réalités politiques différentes. Et je pense qu'on peut tirer les leçons de ces différents modèles et de ces particularités avec une expérimentation qui date aujourd'hui. Ça fait les premiers épisodes de psycho. Ça fait 30 ans que les gens s'en préoccupent. Ensuite, voilà, une fois qu'on a défini cette méthodologie d'engagement des acteurs, comment on va s'attaquer au problème? Si on prend la question de la durée de psychose non traitée, elle se décline finalement en plusieurs parties. Il y a le délai de demandelle, le délai d'adressage, qui est souvent assez long, et puis beaucoup de délais qui sont internes au système de soins. Et si on pense à comment notre secteur pourrait se positionner sur cette durée de psychose non traitée, aujourd'hui, finalement, ce travail intracommunautaire, on peut penser que c'est plus autour du CMP qui devrait se décliner, et puis des offres de soins coordonnées qui sont habituellement dans les dispositifs sectoriels, plus du côté des CATTP, voire des hôpitaux de jour. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut envisager comme travail du secteur sur le délai de demande d'aide? Peut-être, et ça a été évoqué dans la présentation précédente, autour de campagnes, informer la population, travailler à la déstigmatisation. Enfin, je pense que l'idée, c'est d'engager le secteur dans cette démarche. Favoriser un travail de réseau, mais qui soit un réseau très spécifique à la réalité sociologique des jeunes, qui n'ont pas les mêmes besoins que d'autres usagers. Et puis enfin, définir des filières, des priorités, ensuite des soins qui petit à petit se filiarisent, un peu comme sous forme d'un entonnoir, pour aller vers une offre coordonnée. Alors si on réfléchit du côté des CMP, ça nécessite peut-être d'adapter les CMP, ça va beaucoup rejoindre ce qu'évoquait Vincent Laprévotte, en se posant des questions de façon assez systématique. Dans cette problématique-là, qui demande? Il s'agit de jeunes, éventuellement d'adolescents. Enfin, nous, on travaille un peu plus dans les secteurs, sur les jeunes adultes. Ça veut dire peut-être offrir des antennes jeunes pour que ça parle à la sociologie de ces personnes. De faire un travail, on l'a vu juste avant, où la personne demande dans des associations, auprès d'éducateurs de rue, dans les lieux d'études, c'est là que la demande va émerger. Ça veut dire faire un travail de réseau avec ces acteurs, spécifiquement. Et puis, on a aussi une demande qui a parfois du mal à émerger, difficilement formulée, un vécu fort de stigmatisation. C'est aussi engager les CMP dans ces processus d'information, de déstigmatisation. Alors comment le faire? De quelle manière? Alors là aussi, je pense qu'il y a l'idée, c'est qu'un centre de compétences sur l'établissement puisse coordonner cette action au niveau des différents CMP et aider à tirer partie des différentes expériences qui ont été réussies dans différents endroits à l'international, que ce soit sur la déstigmatisation, la création de lieux youth-friendly, comme l'évoquait Vincent tout à l'heure, des réseaux d'accès facilités, des équipes mobiles. Enfin, voilà, il y a des tas d'expériences qui peuvent s'adapter à nos territoires. Alors, comment faire ensuite en pratique? Et là, j'ai mis ce schéma pour essayer d'imaginer comment ça peut ensuite se décliner au niveau d'un établissement. Alors, cette question du déploiement mobile, d'un accueil plus spécifique, travail partenarial, il implique probablement la filiarisation sous forme de tranches d'âge. C'est quelque chose qu'on est en train d'évoquer dans l'accueil. Il y a quand même, je pense, un accueil qui est spécifique. Alors, pas forcément à ce stade spécifique d'une pathologie. On ne sait pas sur le temps de l'accueil quelle est la nature du problème. Mais en tout cas, spécifique par la question de la tranche d'âge. Et les 16-30 ans, c'est une tranche d'âge. Avec une fonction de tri, d'information, de déstigmatisation que pourraient assurer les CMP. Ensuite, lorsqu'il s'agit d'offrir des soins, la problématique est identifiée, il s'agit de mettre en place une offre de soins coordonnée avec toutes les facettes du soin qui sont recommandées pour cette population, avec le case manager qui aide le patient à naviguer dans le système. Là, on est probablement plus sur une offre de soins, si on pense à nos dispositifs sectoriels, qui est l'offre type CATTP, mais qui a à se transformer, à se positionner clairement dans une logique de réhabilitation et de rétablissement. Un point très important, qui est un petit peu compliqué, puisque on a tendance à avoir monté notre offre sur des territoires, et puis parfois un peu en silo. Au plus qu'on rentre dans la spécialisation des soins, au plus qu'on rentre dans une logique de concentration de compétences. En plus, sur cette question des premiers épisodes de psychose, je pense qu'un seul secteur, on est sur une masse critique en termes d'incidence du trouble et de personnel pour pour les traiter, qui est peut-être un petit peu limité au niveau d'un seul secteur pour créer une offre de soins coordonnée. Donc l'idée, ce serait peut-être de regrouper 2-3 secteurs pour proposer des offres de réhabilitation qui sont adaptées aux besoins, hein, en quelque sorte. Voilà. Sur la logique de faire bénéficier à cette population d'outils actualisés, des outils de remédiation, de réhabilitation les plus en phase avec ce qui se fait au niveau international, là serait le positionnement d'un centre de compétences au niveau d'un établissement, voire d'un territoire, pour former et diffuser les nouvelles pratiques au sein de ces espaces de soins coordonnés. Et puis, on peut imaginer que dans un certain nombre de cas, les situations deviennent plus sévères qu'il y a un recours nécessaire à des soins beaucoup plus intensifs. Alors, dans la situation extrême sous forme de l'hospitalisation. Et là aussi, je pense qu'il y a un questionnement à avoir sur cette hospitalisation. Il faut aussi qu'elle s'adapte aux besoins et à la particularité d'une population jeune. Je pense que dans cette logique-là, une unité d'hospitalisation dédiée à cette problématique a toute sa pertinence. Maintenant, en termes de rayonnement territorial, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse en faire une par secteur, mais que si on le pense en termes d'incidence du phénomène, surtout si on déploie tous les dispositifs d'amont, on peut espérer que l'hospitalisation va devenir un phénomène plus rare. La logique voudrait qu'on ait une unité pour un regroupement de secteurs. Enfin, le Vinati, on doit être sur une population desservie de 800 000 habitants. Une unité pour l'établissement, ce serait quelque chose d'intéressant probablement. Voilà un petit peu comment la logique peut se décliner. Ce qui va m'amener à conclure sur l'idée que le système du secteur psychiatrique, il faut pas. Enfin, je pense que ce serait un peu dommage de le rejeter. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant en termes d'accessibilité territoriale. Hein, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de pays ailleurs n'ont pas. Finalement, ces différentes initiatives se sont beaucoup construites sur des terrains vierges où il n'y avait pas beaucoup de diffusion des soins. Puis ça s'est fait comme ça. Là, nous, on a cette diffusion, mais il faut qu'on la modernise pour, je pense, s'appuyer dessus comme un organe de diffusion des compétences au plus près des usagers. Voilà. Alors aussi, je pense que d'un point de vue, général, l'idée de partir du besoin, de la problématique de santé publique, avec cette logique que je proposais d'intervention mapping, mais bon, il y a aussi d'autres méthodologies, mais en tout cas de partir du besoin pour produire l'offre de soins, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'on a parfois tendance à faire l'inverse. Et donc, avec ce autour de cette double exigence d'à la fois être accessible et à la fois de diffuser des soins d'excellence, il y a sans doute une nécessité d'introduire un petit peu plus de flexibilité dans nos systèmes. Et ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Merci pour cette présentation tout à fait intéressante, puisqu'effectivement, elle souligne combien la France a d'avantages avec les CMP. Et j'aime beaucoup votre idée de remoderniser les CMP, qui, comme soi, ressemble un petit peu à un challenge, mais qui a un avantage absolument considérable, c'est effectivement de partir de nos forces.